Panorama Économique.
Bonjour messieurs, dames et bienvenue à ce panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi, une émission qui vous est présentée ce week-end par Agathe Mpona Elema et Berry Franklin Luchaka. Bonjour Berry.
Bonjour Agathe et bonjour à tous.
Au menu de l'émission d'aujourd'hui, une économie globale assainie ajoutée à une croissance économique soutenue. La voie est balisée pour l'amélioration du social du Congolais. Le gouverneur de la Banque centrale l'a affirmé mercredi à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Au menu de cette émission également, ce bras de fer entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement. Dans un communiqué de presse, le ministre des Finances appelle M. Albert Yuma à améliorer plutôt la gouvernance dans son entreprise, la Générale des Carrières et des Mines. Le ministre des Finances réagissait ainsi au communiqué de la FEC sur la dégradation du climat des affaires. Pour commenter tous les sujets qui seront abordés dans cette émission, nous recevons pour vous M. Gustave Omba. Il est consultant juridique dans les milieux d'affaires. Il est aussi député honoraire et acteur politique. Nous lui disons bonjour.
Bonjour madame.
Il n'est pas ici pour la première fois et nous lui souhaitons la bienvenue.
Merci.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine, les objectifs de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo au cours de l'année 2012 ont été atteints. L'inflation s'est établie à près de 3% contre une prévision de 9%. Le franc congolais est resté globalement stable toute l'année face aux principales devises et la croissance est demeurée quant à elle vigoureuse avec 7,2% Berry.
Ces informations sont contenues dans le communiqué final de la dernière réunion mercredi du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. La guerre à l'est du pays et l'organisation probable des élections locales l'année prochaine sont deux paramètres à observer de près car ils pourront engager des dépenses supplémentaires, a reconnu le comité. Avec une économie globale assainie et une croissance soutenue, le gouverneur de la Banque centrale du Congo pense que le chemin est balisé. Selon lui, il reste à présent que le gouvernement fournisse des services sociaux conséquents comme le souhaite le commun des Congolais. Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo, le dit à Daniel Tambinzoni.
Il est vrai que nous avons une situation macroéconomique assainie. En plus de cela, nous avons une croissance économique. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ces deux éléments-là sont des passages obligés pour améliorer la situation des Congolais. Sans ces deux préalables-là, vous aurez difficile. On peut donner des augmentations de salaire, mais si ces augmentations de salaire sont érodées par l'inflation ou l'hyperinflation, les prix montent, vous n'êtes pas content, il y a le taux de change qui va bouger, donc vous allez perdre de jour en jour, de plus en plus, et ça je crois que le Congolais moyen ne veut plus entendre parler de l'hyperinflation, ne veut plus entendre parler d'une monnaie qui se déprécie au jour le jour. Donc je pense que s'il y a eu des craintes, par exemple, lors de la sortie des coupures à valeur faciale adaptées, c'est que justement le Congolais appréciait d'avoir une monnaie qui est stable, d'avoir des prix qui sont stables, d'avoir une lisibilité en ce qui concerne les prix. Maintenant, il faut améliorer les conditions sociales, il faut donner plus de services sociaux à la population congolaise, ça ce sont... C'est le devoir du gouvernement de pouvoir donner ces services-là parce que nous payons quand même des impôts et le Congolais a le droit d'exiger qu'on puisse lui construire une école, qu'on puisse lui donner des transports, qu'on puisse lui construire des hôpitaux et que ces hôpitaux puissent avoir les médecins qu'il faut et les médicaments qu'il faut.
Et voilà, nous retrouvons Gustave Omba qui est notre invité dans ce panorama économique que vous venez de suivre, le gouverneur de la Banque centrale, qui admet que la voie est balisée par la stabilité de l'économie dans sa globalité ou cadre macroéconomique et il rejette la balle au gouvernement pour que le gouvernement en profite pour offrir à la population des services sociaux qu'elle attend de tous ses voeux.
Je crois que le gouverneur de la Banque centrale attend que le conseiller financier du gouvernement a, au travers sa petite déclaration, présenté les grandes théories des finances. Après qu'on ait stabilisé la monnaie locale qui s'appelle franc congolais, après qu'on ait parlé de la croissance macroéconomique, il faut effectivement que l'impact de ceci se fasse sentir dans le social, dans le panier de ménageurs congolais. Donc c'est une seconde étape, une étape qui doit tenir compte des réalités de gestion économique du pays. Ça veut dire une politique économique que le gouvernement mettra en place pour permettre à ce que, après qu'il y ait stabilité, que le pays soit également en mesure de produire, et que sa production locale soit à la hauteur de pouvoir permettre à ce que la stabilité se crée dans la vie courante des Congolais. Mmh. J'appelle ça les grandes théories qui font partie de termes que le Congolais entend depuis, je crois, 3 ans déjà.
Des théories, mais qui sont la base pour
bien
le
sûr,
reste.
Bien sûr, et que l'inconnu ici, c'est l'étape suivante, qui sera celle de la mise en application, mise en moule, la matérialisation de ces grandes théories par rapport à l'action du gouvernement. Et le moment venu, je crois que nous allons étayer cet état de choses.
Qu'est-ce qui manque pour que le pas soit fait entre cette stabilisation des paramètres de la macroéconomie? Qu'est-ce qui manque pour faire le pas, pour que ça se traduise dans l'assiette du Congolais?
C'est la volonté politique. Vous comprenez que on ne peut pas croire, au regard de certaines actions qui sont en train d'être menées dans ce pays, les écarts qui se font tant au niveau de la Banque centrale au regard de certains renseignements que nous détenons ou que je peux dire information, les décaissements non contrôlés qui se font au niveau de la Banque centrale déjà, à l'insu du gouvernement, à un certain degré.
Vous avez des preuves de ce que vous dites.
Je pèse mes mots. Je crois que les gens qui me suivent en ce moment, là où ils sont, ils se disent comment est-ce que ce genre d'informations peuvent déjà se dire devant les médias. Donc, quand je vous dis qu'il faut qu'il y ait plus de volonté que des discours politiciens, mais ici, c'est une théorie qui doit être matérialisée par la volonté politique oui. de ceux qui ont la charge au quotidien de la gestion de l'État. Mm-hmm. Donc, un peu plus de sérieux, un peu plus de rigueur dans la manière de faire les choses,
oui.
et que le gouvernement se dise, j'ai la Banque centrale qui est mon conseiller, et que la Banque centrale se dise, je suis là au service du gouvernement. Oui. Je crois que cette complicité est que doit être matérialisé pour que les uns ne se sentent pas frustrés parce que nous appartenons à ceci ou à cela. Il faut que cette complicité soit et qui va exprimer la volonté de pouvoir faire sortir le Congolais dans sa misère indescriptible pour matérialiser la grande vision de qui est leur attente par rapport au discours politicien qui se dit tout le jour dans les différents.
Et donc vous voulez dire qu'il n'y a pas encore cette complicité?
À ma connaissance, il y a plus d'hypocrisie qu'une sincérité dans cette complicité.
Voilà le temps pour nous d'atterrir sur ce deuxième dossier, bras de fer entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement.
Oui, Agathe, le ministre de l'économie affirme ne pas être d'accord avec la FEC. Dans un communiqué de presse publié le 20 décembre dernier, le patronat congolais dénonçait la dégradation brutale du climat des affaires en RDC. Jean-Paul Nemoyato précise que le gouvernement a fait de nombreux efforts pour améliorer le climat des affaires. Des détails avec vous, Nadine Foulantimba.
Depuis que le gouvernement a été investi, il a instauré un cadre de concertation permanent avec les opérateurs économiques pour que soient discutées des questions comme celle des climats des affaires. Jean-Paul Nemoyato s'est donc dit surpris par ce communiqué de presse qui présente une image négative du pays.
En tant que membre du gouvernement, je suis surpris que la FEC, qui est notre partenaire, puisse aborder des choses de la manière dont ils ont fait. Étant donné le fait que nous avons des cadres de concertation permanents. La situation telle que décrite par la FEC à travers son communiqué, personnellement, je ne suis pas d'accord.
Selon lui, plusieurs efforts ont été faits par le gouvernement, notamment la stabilisation du cadre macroéconomique et la réduction d'un grand nombre de taxes. Jean-Paul Nemoyato.
Quand vous prenez le cadre macroéconomique actuel, nous avons maîtrisé les taux d'inflation pour toute l'année 2013. Jusque là, en cumul, nous avons 2,67% d'inflation. Donc, il y a la stabilité des prix. Aujourd'hui, avec la dédollarisation, on peut faire des économies, on peut épargner voit rien en franc congolais parce que nous avons une monnaie qui s'apprécie même par rapport aux monnaies étrangères. Nous avons un taux de croissance qui est de l'ordre de 7,2%. Avec tout ça, vous dites que vraiment le climat des affaires n'est pas bon. Il y a eu un décret qui avait supprimé toute une série de taxes dites illicites. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans nos ministères, nous avons eu à supprimer beaucoup de taxes et à réduire celles qui existent. Mais de quoi l'AFEC parle?
Le ministre de l'économie souhaite discuter avec l'AFEC à travers les cadres de concertation permanents pour parler ensemble sans passion des questions qui touchent à l'intérêt national.
Et toujours en rapport avec ce communiqué de l'AFEC, le gouvernement appelle plutôt le directeur général de la GECAMINE et le président de son conseil d'administration, qui est en même temps président de l'AFEC, de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer la gouvernance dans leur entreprise.
C'est en ces termes que réagit le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, à la décision du Fonds monétaire international le 30 novembre dernier de rompre l'accord qui le liait au gouvernement congolais. Une décision qui a privé la RDC des 320 millions de dollars américains additionnels pour consolider ses réserves internationales. Daniel Tamizoni.
Dans ce communiqué de presse, le ministre délégué aux Finances rappelle que la décision du FMI est arrivée dans un contexte de très grande stabilité macroéconomique. Selon lui, tous les repères structurels du programme économique du gouvernement avec cette institution ont été satisfaits, à l'exception de la mauvaise gouvernance au sein de la GECAMINE, un manque de transparence dans la cession des actifs miniers de cette entreprise publique transformée en société commerciale. La rupture de cet accord appelé facilité élargie de crédit dans le cadre du programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international a de facto impacté négativement sur la conclusion de trois dernières revues semestrielles du programme qui n'auront plus lieu. Ainsi, la RDC est passée à côté des financements supplémentaires auxquels elle a normalement droit lorsque les revues du programme économique sont concluantes. La préoccupation actuelle du gouvernement, selon le ministre délégué aux Finances, c'est la question de gouvernance des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, particulièrement le cas de la GECAMINE, dont les dirigeants n'arrivent pas encore, je cite, à faire le saut quantitatif nécessaire qui devrait permettre au pays de transformer les immenses potentialités en opportunités de développement pour la majorité de nos populations. Fin de citation. Patrice Kitebi conclut son communiqué en affirmant que la question de la reprise de partenariat avec le Fonds monétaire international est en cours d'examen.
Et voilà, nous retrouvons Gustave Omba dans ce studio qui a suivi de près ce dossier. La FEC qui émet un communiqué comme quoi le climat des affaires s'est brutalement dégradé. Le gouvernement qui réagit, le ministre de l'économie qui dit de quoi la FEC parle puisque le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en supprimant, en allégeant certaines taxes. Et le ministre des Finances, quant à lui, qui estime que la GECAMINE, dont le PAD, M. Yuma, est le président de la FEC, devait plutôt voir la bonne gouvernance au sein de son entreprise, faute bonne gouvernance qui manque et qui a fait perdre à l'État des appuis supplémentaires du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que vous pensez de cette guéguerre?
Madame, je crois que notre observation, notre analyse va être portée sur deux volets.
Oui.
Le premier volet, c'est en rapport avec le communiqué de la FEC.
Oui.
Personnellement, j'assiste le milieu d'affaires. Je peux considérer que si au niveau de la Fédération des entreprises, à son sommet, oui, il y a une déclaration de ce genre,
c'est fondé.
Certainement, il y a eu une série de doléances. Et je voudrais ici que ceci soit comprise comme étant un communiqué qui est issu d'un fait circonstancier. Vous comprenez que à la fin de l'année, au regard de mon expérience dans les milieux d'affaires, tous les services publics qui régénèrent les recettes essayent de tirer les tiroirs pour permettre à ce que ces agents qui sont commis à faire les contrôles trouvent là une occasion, comme la pratique de la bonne gouvernance ne s'est pas encore n'est pas suffisamment ancrée dans les différentes régies. La légèreté fait que les entreprises aujourd'hui subissent le comportement de ces agents, de différents services de l'État qui les amènent qui un avis à tiers détenteur pour essayer de bousculer, pour qu'à la fin qu'il y ait une négociation entre les entreprises publiques.
Qu'au finish, il soit corrompu.
Au finish, comme la corruption fait partie déjà des systèmes de gestion en République démocratique du Congo, qui est dû au fait qu'on ne motive pas suffisamment les agents de l'État qui travaillent dans les services, dans les régies financières. Parce que si ces gens étaient suffisamment payés par rapport au travail qu'ils réalisent, je crois qu'ils allaient être au-dessus de toute manipulation.
Ce que vous voulez dire là, c'est que la déclaration de la FEC est fondée.
À mon avis, je trouve que c'est une déclaration d'ordre circonstanciel par rapport aux festivités de fin d'année.
Vous avez vu
aujourd'hui, dans la plupart des entreprises de l'État ou des services publics, on voit que les agents de l'État ne sont pas payés. Au devant de ce scandale, ils ont anticipé l'action parce que moi j'en ai reçu plusieurs dans mon office. Ils viennent pour telle chose. Je dis mais non, ça c'est déjà aboli. C'est l'absence de contrôle de suivi dans les systèmes de gestion de l'État qui est à la base de ça. De ce point de vue, je considère que si je dois comprendre la déclaration du patron de la FEC, parce qu'il dit que c'est une détérioration brutale.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un certain degré, il y avait une certaine amélioration. Mm-hmm. Et là, je vais vite parachuter par rapport à la déclaration, l'étonnement du ministre de l'économie.
Oui. De quoi il parle ?
Qui dit qu'il comprend absolument rien. Et c'est là où je me dis également que ceux qui sont au gouvernement, ils se comportent comme s'ils étaient des extraterrestres. Pourtant, ils sont plein nos as et ils oublient que le pays ne se gère pas seulement au sommet. Il faut une certaine continuité pour savoir si ceux qui ont la charge de gestion et ceux qui ont la charge de mobiliser les recettes, ils sont suffisamment motivés pour qu'ils ne soient pas à la source ou à la base des tracasseries que les opérateurs économiques sont en train de se plaindre aujourd'hui.
Et il a dit aussi qu'il y a un cadre de concertation qui existe entre ces opérateurs et le gouvernement. Pourquoi il faut passer par un communiqué de presse et non pas aller voir les autorités dans le cadre du cadre, je me répète, qui existe déjà pour discuter et trouver des palliatifs? Apparemment, c'est Anguille sous roche.
Vous avez suivi que le patron de la FEC a dit c'est une dégradation brutale. Dans la brutalité, il y a une réaction brutale. Et à mon avis, je considère que à la suite de la détérioration brutale de la situation que j'appelle ici les tracasseries, la FEC reçoit la pression de nous qui sommes membres, le patron de la FEC reçoit la pression de nous qui sommes membres pour qu'ils puissent réagir brutalement également. Mais derrière ça, il faut se dire qu'il y a des choses qui se cachent. Parce que quand au premier volet, nous analysons de cette manière la position de la FEC, il faut également passer au second volet qui est la prise de position du ministre des Finances et qui est attaché au Premier ministre. Vous savez,
celui-là estime que la GKMI devrait aller voir sa gouvernance.
Moi, je ne pense pas que cette réponse-là devait venir de lui. Et je refuse de croire que c'est lui-là qui peut dire ça, lui qui appartient au gouvernement de savants et gestionnaires que le Congo n'avait jamais connu.
Et des technocrates,
parce que, à ce que je sache, pour que la GKMI et ses comités, il a fallu quand même l'implication des autorités, les gestionnaires au quotidien de l'État. Le gouvernement a donné un avis. Le ministère du Portefeuille et de Mines, ils ont fait le choix, ils ont eu un critère de choix de ces derniers. Aujourd'hui, à la suite, entre guillemets, de leur imprudence, parce que le ministre des Finances parle de manque de sens de gestion, la bonne gouvernance, il vient d'entraîner le Congo dans un chaos pendant que le Congo était sur la bonne ligne des exigences du système de Bretton Woods. Alors, comment lui, en tant que ministre près des Finances, près du Premier ministre, doit se contenter à se plaindre que de prendre une décision d'autorité pour sanctionner...
Mais peut-être parce que le format actuel de la GKMI ne le permet pas.
S'il vous plaît. Non, il y a tout un mécanisme. Il ne faut pas oublier que j'ai été législateur hier quand on a parlé de cette fameuse réforme qui, en réalité, ne fait qu'amener le pays dans les chaos. Il ne faut pas oublier qu'il y a des mécanismes qui font qu'aujourd'hui, les autorités, le gouvernement puisse avoir la main dessus. La GKMI, Pensez-vous que M. Youma, le président du conseil d'administration et son DG, ils ont pris cette décision de brader au prix plancher cette mine de la Gécamine qu'ils ont vendue à 70 millions pour le revendre à 230 millions de dollars? Ils l'ont fait sans le consentement et de l'exécutif et du gouvernement? Non, je crois que derrière ça, il y a quelque chose, madame. C'est là où je voulais vous amener sur la piste politique. Vous avez suivi le président de la République lors du congrès. Il a fustigé son gouvernement, le gouvernement des experts. Il a dit que trop de théories macroéconomiques, mais on ne sent pas l'impact sur le social du Congolais. Mais le chef de l'État, en disant ça, il s'est peut-être soustrait du lot parce que c'est lui qui est le chef de l'exécutif. Quand il dit ça de son gouvernement, certes, il fait l'état de la nation, mais il doit se reprocher lui-même d'être l'homme qui accompagne ou qui avalise que les actions s'effacent sur les grandes théories que son peuple ne se retrouve nullement. Est-ce que cette situation ne fait-il pas partie de décor qui a été annoncé, qui passe à la seconde phase pour justifier les grandes réformes qui vont se faire demain et peut-être amener ces gouvernements.
Clairement, vous voulez dire quoi?
Ces gouvernements que tout le monde attendait, que ça soit vraiment le gouvernement des savants, et puisse apporter la solution au problème des Congolais.
Clairement, vous estimez qu'il y a une réforme du gouvernement qui s'annonce.
Je crois que c'est la position du chef de la FEC est également un rôle à jouer pour amener le pays à la grande réforme que le chef a annoncé la dernière fois qu'elle était devant
le Congrès. Qui vivra donc verra.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
D'autres informations en plus bref, à Dungu Centre, il est possible maintenant d'envoyer, de recevoir de l'argent.
L'entreprise de messagerie financière Soficom a ouvert pour la première fois ses portes dans cette cité du district du Ouélé samedi dernier. Selon Christophe Ikandou, administrateur du territoire de Dungu, cela désenclavera sa juridiction sur le plan économique et facilitera d'importantes transactions commerciales.
Et le budget de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu exercice 2013 a été jugé recevable par les députés provinciaux. C'était au cours d'une séance plénière qui s'est tenue cette semaine.
Il est de l'ordre de 13 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 18% par rapport à celui de l'année dernière. Selon le président de cet organe délibérant en province, Jules Akizamwami, cette augmentation se justifie par le nombre des députés provinciaux qui sera revu à la hausse en 2013, cela conformément à la loi électorale. Les députés déplorent cependant la faible réalisation du budget de l'exercice 2012. Elle était de moins de 26%.
Et voilà, Gustave Omba, vous êtes député honoraire, député national, mais là, c'est le budget de l'Assemblée provinciale, le budget provincial qui a été jugé recevable au Nord Kivu. Mais je me suis un peu interrogée sur le fait qu'on augmente, le budget est augmenté d'environ 18%, simplement par le fait que le nombre de députés va augmenter et qu'en réalité, le budget dont l'exercice est en train de se clôturer n'a été exécuté qu'à 26%, il y a quand même de quoi se poser des questions.
Ce n'est que les signaux qui montrent que le pays, ce pays-là, ou cette province-là, n'est sur les normes de marche de province qui existent dans les pays des hommes normaux. C'est inconcevable. Et on ne doit pas procéder à une croissance des 18% d'un budget provincial à la suite de l'augmentation des députés.
Pour dire que les dépenses institutionnelles pèsent beaucoup plus dans ce budget.
Voilà que on vient seulement d'affirmer ici que les systèmes de gestion au Congo, le fonds, l'argent, c'est pour les institutions, rien pour le peuple. C'est déplorable. Heureusement que c'est flagrant que tous les Congolais, même le fils du Nord Kivu, vient de comprendre que l'argent, c'est pas pour eux, c'est pour les institutions.
Panorama économique, matière première.
Matière première, l'huile de palme se fait de plus en plus rare dans la cité de Yangambi. Nous sommes en province orientale et pour cause, l'abattage illicite des palmiers à huile au sein et en dehors de la concession de l'INERA, Institut National d'Études et de Recherche Agronomique, Berry Louchaka.
La société civile de Yangambi l'a dénoncé mercredi au cours d'un échange avec la presse locale. Selon cette organisation, en l'espace d'environ 3 mois, plus de 10 hectares de palmiers sont coupés illégalement par des jeunes gens en vue de tirer du vin de palme. Et déjà dans la cité de Yangambi, les habitants signalent la hausse du prix de l'huile de palme. Joseph Bassaï de la radio Bondeko de Isangi.
La société civile et les fournisseurs d'huile de palme de la cité de Yangambi accusent certains jeunes gens d'abattre ces palmiers à huile situés dans la concession de l'INERA ainsi que dans des concessions privées. Selon eux, plus de 10 hectares sont déjà détruits par ces tueurs de vin de palme. Jean Likombe, un des fournisseurs d'huile de palme à Yangambi, explique.
Les jeunes gens ne font que couper les palmiers pour en tirer le vin, mais ils ne pensent jamais à replanter.
Les femmes de la cité de Yangambi font désormais des dizaines de kilomètres pour se procurer l'huile de palme. Le prix de cette denrée devenue rare au marché a doublé et tout le monde s'en plaint.
L'huile de palme est devenue rare. Avant, un bidon d'huile se vendait entre 11 et 14 000 francs. Aujourd'hui, il revient à 18, voire 20 000 francs congolais. La crise est profonde à Yangambi, nous souffrons. La bouteille d'huile de palme se vend à 600, voire 800 francs congolais. Nous ne savons plus comment nourrir 7 à 8 enfants dans nos familles.
Pour sa part, l'INERA appelle les autorités à arrêter et à punir les auteurs de ces actes. L'inspection de développement rural et de l'agriculture, de son côté, s'est dit déterminée à lutter contre cette situation. De retour de Yangambi, Joseph Bassaï de la radio Bondeko d'Isangi pour Radio Okapi.
Et voilà l'huile de palme qui se fait rare. Gustave Omba, un petit commentaire.
Un petit commentaire, c'est la conséquence de l'absence d'une vision politique à appliquer pour l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, le Congo, sa jeunesse est livrée à la culture de drogue, de prendre de l'alcool. Et voilà aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas une politique d'encadrement à cette jeunesse, les jeunes, ils sont là pour détruire ce qui pouvait faire une croissance dans leur environnement. Ils détruisent et c'est déplorable. Il faut que le gouvernement mette en place une politique de l'encadrement de la jeunesse, leur donner de l'emploi, capable de pouvoir les occuper et éviter d'aller se livrer dans l'exploitation de vin de palme qui n'est là que pour détruire leur cerveau.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine. À cette période des fêtes, la vente des jouets constitue une bonne affaire à Kinshasa. De nombreux commerçants espèrent ainsi augmenter leurs bénéfices. Mais quels sont les jouets proposés? Combien coûtent-ils et qui les achète? Reportage signé Aimé Kabouya.
Nous sommes au marché central de Kinshasa. Dans la plupart des magasins, le commerçant propose de jouer aux clients juste à l'entrée. Il y a par exemple de petits soldats en caoutchouc, de robots à piles, des pistolets à eau, de voitures électriques et bien d'autres. Le prix de ces jouets oscille entre 300 et 900 000 francs congolais. Des prix plus ou moins à la portée de toutes les bourses. Mais curieusement, il n'y a pas une grande affluence des clients. Témoignage d'un vendeur de jouets. Si au marché central, il n'y a pas d'engouement, dans les supermarchés en ville, par contre, l'ambiance est tout autre. Notamment à Soins Frères, à City Market, à Pelou Store, où des espaces à jouer ont été spécialement aménagés pour d'éventuels acheteurs. Par exemple, une douzaine de ballons gonflables coûte 20 000 francs congolais. Une poupée de marque Barbie revient à 150 000 francs. Et une voiture Ferrari dernière cri coûte 700 000, voire 800 000 francs congolais. Des prix pas toujours à la portée de toutes les bourses. Mais pour certains parents, les prix ne posent pas de problème. Ce qui compte, c'est la qualité et de faire plaisir aux enfants.
Lorsque je donne aux petits-enfants les jouets, je trouve que ça fait partie de leur vie. Moi, je ne tiens pas compte du prix. Je m'intéresse surtout à la formation des enfants, à l'intérêt de ce jeu-là. Je ne m'intéresse pas au prix, je ne saurais pas vous le dire.
Bon, il y a un magasin qui est pour la banne, qui est la qualité est bien. Il y a un prix. En plus, face à la réduction.
Une chose est certaine, les Quinois, à l'approche de fêtes, s'intéressent plus à bien manger et à bien s'habiller qu'acheter des jouets aux enfants.
Et voilà ce reportage que vous venez de suivre attentivement. Quel commentaire cela vous inspire d'entendre que d'un côté, il y en a qui n'ont même pas de quoi se mettre sous la dent, mais il y en a qui ne regardent pas les prix, qui achètent tout simplement pour faire plaisir aux enfants.
C'est ça la réalité de la vie. Il y a de ceux qui vivent au ciel, il y a de ceux qui sont en enfer. Il s'est fait malheureusement qu'il n'y a pas une classe moyenne, et que ceux qui se permettent de s'acheter à n'importe quel prix, à bien voir, ils ne peuvent être que du côté de ceux qui ont le gros des dépenses des budgets de l'État, les institutions et le peuple congolais dans sa globalité, 90% et dans les capacités. Vous avez suivi la maman dire, moi en anglais, le binazong a été ceux qui n'ont pas de jouets, que je rentre chez mes parents. C'est pour dire que les enfants ont droit à la vie et qu'il est important que ça interpelle les dirigeants. Pour que la nécessité de créer une classe moyenne pour tout celui qui travaille, qui est là, il y a un minimum de faire plaisir à son fils à la fin de l'année, parce que nous travaillons pour eux.
Quoi de plus légitime, et c'est sur ce commentaire que prend fin ce dernier panorama économique de l'année 2012. Merci à Gustave Omba qui nous a fait l'honneur d'être ce dernier invité de 2012.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour la confiance.
Et voilà, chers auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité durant toute cette année aux programmes économiques de Radio Okapi. Merci à Berry Franklin Luchaka qui nous a accompagnés aujourd'hui.
Merci Agathe et merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres informations économiques. Retenez que le rendez-vous quotidien de l'actualité économique, c'est du lundi au vendredi à 18h15 de Kinshasa. Et les analyses dans Panorama économique, c'est tous les samedis à 12h30. Bonne année à tous et surtout restez fidèles à Radio Okapi.